Bonsoir Nathalie Arthaud. Bienvenue sur France Info dans le Pour et le Contre. Vous allez
Merci.
Bien ?
Merci, très bien.
Alors, vous êtes porte-parole de Lutte Ouvrière, candidate à la présidentielle de 2027. On rejoint Nathalie. Le plateau sur Nathalie de Gilbert Bécaud.
Bonsoir.
Nathalie Arthaud.
Bienvenue.
Je crois que vous connaissez ce plateau, vous connaissez Nathan Devers et Paul Melun. Alors, juste parce qu'on parlait d'Iran il y a quelques instants avec notre invité, vous êtes descendu dans la rue ce week-end pour soutenir la révolte du peuple iranien. On va peut-être voir ces images de vous dans les rues de Paris. Ce régime, dites-vous, doit tomber au plus vite. Et là, je vous pose la question, même si cela doit passer par une intervention américaine, Nathalie Arthaud.
Je suis absolument opposée à toute intervention américaine. On l'a bien compris, quand Trump intervient, quand les États-Unis interviennent, ce n'est sûrement pas pour sauver la démocratie, pour le droit des femmes ou pour la prospérité des peuples. Donc cela ne ferait que rajouter finalement de l'oppression à l'oppression. Donc je suis absolument opposée. J'étais en effet à ce rassemblement-là. Et vous savez, il y avait un slogan qu'on retrouvait beaucoup sur les différentes pancartes, c'était « ni chat, ni mollah ». Parce que moi, ce que j'observe, c'est que finalement, Reza Pahlavi, le fils du chat, est plus populaire sur les plateaux de télé d'Europe et des États-Unis que dans les rues en Iran, en réalité. Et parce que, précisément, je crois qu'il fait partie des marionnettes que les États-Unis peuvent agiter, en effet, pour mettre la main sur ce régime. Mais moi, ma confiance, elle va dans ceux qui se révoltent aujourd'hui. Ils n'ont pas eu besoin du chat pour se révolter. Ils n'ont pas besoin du fils du chat pour se diriger et pour se gouverner. Voilà, moi, ma confiance, elle va dans ce peuple, dans ces femmes, dans ces classes populaires qui ont un courage ô combien impressionnant, parce que finalement, ces dernières années, ils n'ont cessé de se battre malgré ce régime qui est impitoyable, qui est obscurantiste, qui est anti-ouvrier. Ils sont repartis au combat, je suis convaincue. C'est qu'avec ce type de courage-là et de détermination et de combativité que les masses révoltées peuvent changer le cours de l'histoire. Mais pour moi, il s'agit bien, bel et bien, des masses révoltées. C'est à elles, en effet, de s'organiser et de constituer leur propre gouvernement. J'espère être un gouvernement de travailleuses et de travailleuses, parce que c'est comme ça, en effet, que véritablement ils sortiront et de l'exploitation et de l'oppression.
Moi, j'aurais une question. Vous parlez d'exploitation et d'oppression. Votre discours sur ce qui se passe en Iran est extrêmement clair. Que pensez-vous de celui d'un certain nombre d'élus de la France insoumise qui, depuis le début de cette dernière révolte, parlent essentiellement d'émeutes contre la vie chère? Ça, c'est l'élément de langage qu'ils reprennent tous sur les réseaux sociaux, sur X. Parfois, ils accompagnent pour les droits, etc. Mais en mettant l'accent essentiellement sur l'exploitation qui existe, hein, la perte du pouvoir d'achat, c'est, tout ça est né du bazar de Téhéran, on le sait, mais peut-être en parlant moins de l'autre dimension.
Non mais moi, c'est quand même dommage de discuter de cette révolte et de la profondeur, donc d'une mobilisation, de cette aspiration à vivre mieux et à vivre libre aussi. C'est quand même dommage qu'on la rabaisse sur une polémique politicienne, si
c'est
vous voulez.
C'est pas une polémique, c'est la lecture
donc,
de la
moi,
gauche
j'ai,
française.
J'ai franchement pas envie de commenter ça. Moi, ce que je pense, c'est que, en effet, là, on a quand même affaire à une double oppression aussi en Iran. Hein. À la fois l'oppression de la République islamique, ça c'est sûr, c'est certain. À la fois des dirigeants, des dignitaires du régime qui exploitent les travailleurs, qui sont corrompus, qui se targuent de religiosité, mais qui en réalité copient les mœurs occidentales, envoient leurs fils, leurs filles étudier et vivre aux États-Unis. Bon, voilà. Tout ça, c'est bon pour finalement contrôler le peuple, pour soumettre le peuple, y compris on soumet les femmes pour soumettre l'ensemble, en fait, du peuple. Donc, ce qu'on observe, et moi, c'est ce qui me conforte dans vraiment ma conviction que, finalement, les choses, elles peuvent changer, c'est de voir que l'aspiration à se libérer, on peut on peut l'étouffer, on peut emprisonner les révoltés, mais on ne peut pas la supprimer et elle revient sans cesse. Et moi, ça, c'est ce qui guide tout mon combat et qui me confirme qu'il est possible de changer l'ensemble de la société. Parce qu'il n'y a pas que le problème de... Hein, de l'oppression, elle n'est pas qu'en Iran.
Bien sûr, évidemment,
à l'échelle du monde. Ça se passe au travers de différents types de régimes, évidemment.
Alors, on commençait cette conversation grâce à Carizabeth sur Trump, sur Donald Trump, l'homme dont le monde entier parle ces derniers jours. On voit ses prétentions territoriales un peu partout. On a vu ce qu'il a fait avec Maduro au Venezuela. On voit désormais ses prétentions territoriales jusqu'au Groenland, qui est un territoire qui fait partie du Danemark malgré un statut d'autonomie depuis 79. Donc, on a l'impression que rien ne va arrêter ce rouleau compresseur et ce grand réveil des empires qui, de la Russie face à l'Ukraine, de la Chine face à Taïwan, des États-Unis d'Amérique face au Groenland, est en train de tout balayer sur son passage. Nous, les Européens, est-ce que, selon vous, on réagit bien face à ce réveil des empires? Est-ce qu'on doit se réarmer? Est-ce qu'on doit investir plus dans notre défense? Est-ce que le président Macron a raison de mettre en place ce mécanisme d'anti-coercition? En gros, est-ce que nous, les Européens, on doit se réveiller, quoi?
Alors moi, je ne suis absolument pas d'accord avec cette conclusion, y compris même cette analyse, en fait. Pour moi, Trump, tous les jours, nous fait une leçon... Enfin, nous donne une leçon du capitalisme. Là, vous parlez de l'impérialisme, mais au fond, c'est le capitalisme.
Surtout chez lui.
C'est le capitalisme à l'échelle du monde, aux États-Unis, mais à l'échelle du monde, en Iran, en Chine, c'est le capitalisme.
Et la mondialisation.
Et la mondialisation, mais capitaliste. Et c'est bien ça le problème. Et vous, bien sûr, je suis d'accord avec vous, Trump est brutal, il est rapace, il est cynique, il n'a aucun principe. Comme le capitalisme, en fait. Exactement comme avec le capitalisme. Et tous les grands groupes industriels, capitalistes et financiers se conduisent comme ça. Et
nous, les Européens, on est capitalistes et pour autant, on n'envahit personne.
Mais on se conduit exactement de la même façon. Exactement. Et si vous voulez dénoncer l'impérialisme, il faut dénoncer l'impérialisme en général. Mais bien sûr que si. Écoutez, c'était en décembre, la France est intervenue au Bénin. A fait jouer l'armée française au Bénin. Pourquoi ? Pour prendre la défense d'un pauvre dictateur, du pauvre dictateur du Bénin, qui apparemment lui allait comme un gant,
hein, n'est-ce
pas ?
Mais par exemple,
il avait été. C'est un des exemples parmi d'autres.
Non, mais
vous savez,
la guerre
moi,
du Mali.
J'ai été assez étonnée quand tout le monde a dit, bien sûr, tout le monde a dénoncé, pas tout le monde, puisque Emmanuel Macron s'est quand même distingué par sa lâcheté, il faut le dire, mais. En général, quand même, les autres dirigeants européens ont dit « mais ce n'est pas une façon de faire, on va quand même pas kidnapper un président et puis l'emprisonner sous une accusation farfelue ». Eh bien, figurez-vous que la France l'a fait, ça. La France l'a fait en Afrique. Elle a même fait bien pire, vous savez, au Cameroun, au Togo, par exemple, elle est allée jusqu'à assassiner des dirigeants qui pouvaient prendre le pouvoir et qui ne lui convenaient pas. En 1956, la France a donc détourné un avion avec 5 dirigeants du FLN à son bord. En 1995, la France a envoyé Bob Denard aux Comores et pour neutraliser le président et l'exiler à la Réunion.
Oui. Revenons à la
Moi, c'est pas une question de 70 ans, mais ce qui me gêne...
C'est pas si loin que ça, en réalité. C'est pas si loin que ça. Et si la France et l'impérialisme français n'est plus aussi agressif et aussi cynique, c'est parce que tout simplement, il n'en a plus la force et la puissance, que c'est devenu un impérialisme de seconde zone. Mais voyez, malgré tout ce qu'il peut faire, il le fait. Moi, j'ai été quand même surprise de voir que le président de Madagascar, qui a été rejeté par son propre peuple, a été sauvé par qui, s'il vous plaît, et gentiment accueilli par qui ? Par la France.
D'accord, mais moi, ce qui me gêne un tout petit peu dans cet argument, même plus qu'un tout petit peu, condamner les opérations colonialistes, parler de la guerre d'Algérie il y a un instant, par exemple, le passé colonial de la France, ou même s'il y a un présent de certains, enfin colonial ou que
bien
ce soit, je le condamne. Mais ce qui me dérange de cette manière de mettre tous les impérialismes sur le même plan, prenons un exemple très précis. La guerre au Mali, faite sous François Hollande. Parce que le président du Mali était sur le point d'être envahi par des islamistes et qu'il demande, le président légal du Mali, demande à la France d'intervenir. Est-ce qu'on peut le mettre sur le même plan que ce qui se passe aujourd'hui dans la région, à savoir des milices russes, des milices Wagner, de la prédation chinoise sans aucun vernis de droits de l'homme, ni sur le papier, ni en théorie. Je ne suis pas en train de dire que la France est formidable, c'est pas ça. Mais est-ce qu'on peut mettre tous les impérialismes sur le même plan ? C'est une vraie question que vous posez.
Oui. Oui, parce que moi, le vernis, ça ne m'intéresse pas. Le vernis, la façade, l'hypocrisie. Quand on enrobe tout ça dans des belles valeurs, qu'on ment de façon éhontée, eh bien, la réalité, elle reste toujours là. Et je ne fais absolument aucune différence. Vous dites que le Mali, alors on a appelé la France, mais n'empêche que la population malienne l'a rejetée.
Parce elle a acclamé François Hollande quand il est venu.
Oui,
c'est a posteriori.
L'a rejetée. Et par ailleurs, ils ont appelé, en effet, la milice Wagner. Ils l'ont appelée également. Donc c'est exactement la même chose.
C'est la même chose que l'armée française, la milice Wagner.
Pour moi, il n'y a sûrement pas un impérialisme meilleur.
En 2014.
Exactement. Il n'y a pas un impérialisme meilleur qu'un autre. À chaque fois, l'impérialisme, c'est pour aller piller, c'est pour imposer sa domination, c'est pour écraser les peuples. Vous savez, la France, la belle France, la patrie des droits de l'homme, le phare les lumières, le phare de la civilisation. Combien de décennies est-elle restée en Afrique ? Pourquoi, finalement, ce continent est resté dans le sous-développement le plus total? Pourquoi, à son départ, il y avait une analphabétisation, il y avait une telle pauvreté, seulement quelques infrastructures, là où ça a rangé, en effet, les mines, un certain nombre de champs qui faisaient la prospérité des Bolloré. Ah, là, c'est sûr que les intérêts des entreprises françaises ont bien été ancrés dans tout ce continent. Mais le peuple, différents peuples d'Afrique, eux, ont été maintenus dans la misère et dans l'oppression. Et la plupart du temps, y compris, moi j'ai été frappée de voir quand même Emmanuel Macron, un des seuls dirigeants occidentaux, à aller commémorer la mémoire d'Idriss Déby, du Tchad. Pour finalement que ce soit son fils qui continue la grande lignée de cette belle dictature. Donc non, il n'y a pas un impérialisme meilleur qu'un autre. Et même si aujourd'hui la France, elle n'a pas justement la puissance de faire le gendarme comme Trump le fait, tous ceux-là sont à mettre dans le même sac. Ils sont les ennemis des peuples, des populations. Et voilà, moi je ne tombe pas dans ce piège-là, qui est un piège dans lequel les travailleurs seront forcément perdants.
On ne sera pas d'accord là-dessus. Revenons peut-être à un autre sujet, mais qui est aussi lié à ce qu'on disait tout à l'heure sur les mécaniques et les différences de richesse, d'oppression, sur la politique nationale. Puisque là, on a un moment clé, on a le budget qui n'en finit plus à l'Assemblée nationale. On nous parle désormais d'un potentiel 49-3, de potentielles ordonnances. 49-3 que Sébastien Lecornu, le Premier ministre, avait exclu dans un premier temps. Maintenant, d'autres, notamment la porte-parole du gouvernement, nous disent que rien n'est exclu par principe. Est-ce que vous redoutez l'usage du 49-3, l'usage des ordonnances à l'Assemblée nationale, ou est-ce que vous croyez que finalement ce budget qui a fait quand même un pas vers la gauche avec les repas à 1 euro pour les étudiants, avec l'investissement pour les bailleurs sociaux, est-ce que ce budget, il vous satisfait? Même si je vois dans vos yeux, vous n'avez pas l'air satisfaite de ce budget.
Non, mais quand on aligne tous les... J'ai entendu le Parti Socialiste dire qu'il y avait...
Qui est prêt à ne pas censurer si le gouvernement s'engageait à respecter justement ses engagements.
Parce qu'il estime qu'il y a toute une série d'avancées
d'avancées
sociales.
Mais il y en a quand même.
Donc, je les ai vues. Oui. Et ça m'a vraiment fait penser à ce que... un dicton de mes camarades du Nord. Ils disent « Ce n'est pas avec des miettes que l'on fait une tartine ». Eh bien, c'est exactement ça.
Alors avec quoi on fait
une
tartine?
Si vous voulez, on fait une tartine, voilà, avec du pain, avec du beurre, avec de la confiture,
et
pas avec des miettes.
Le pain, le beurre, la confiture.
Mais vraiment, vous croyez qu'il n'y a pas de richesse dans ce pays?
Non, mais je vous pose la question. Croyez,
mais justement, c'est ça qui est révoltant. C'est de voir, vous savez, ce soir-là, nous sommes en train de discuter, et il y en a qui sont au restaurant, qui dînent pour 2000, pour 3000, pour 5000 euros. Il y a des richesses dans ce pays, énormément de profits. Je crois que c'est la semaine dernière que la Bourse de Paris a encore battu tous ses records. Donc, non. On entend toujours le grand patronat finalement pleurnicher, mais il pleure la bouche pleine.
L'économie française se porte pas très bien quand même en ce moment.
L'économie française, vous savez, ça veut rien dire. Parce qu'il n'y a jamais eu autant de millionnaires en France. Il n'y a jamais eu autant de milliardaires en France. Mais même avec peu de croissance, ils peuvent faire beaucoup d'argent. Vrai. Et vous voyez, dans l'automobile en particulier, ils produisent peut-être moins et ils vendent moins en quantité. Mais par contre, leurs marges sont bien plus élevées. Ils vendent des voitures qui sont bien plus chères, etc. Donc ça ne veut rien dire. Ce que je sais, moi, c'est qu'il y a de l'argent à un pôle dans la société et qu'en revanche, le monde ouvrier, lui, il recule. Il recule et il vit de plus en plus mal. Et il n'arrive pas, en fait, à vivre de son travail. Parce qu'aujourd'hui, bah, vous avez quand même près de 3 millions de salariés qui sont payés au SMIC. Hein. Quasiment 3 millions. Alors, c'est-à-dire, je le redis, 1440 euros net par mois. Mais voilà, justement, il y a des centaines de milliers de travailleurs qui vont se retrouver, qui sont soit déjà licenciés, soit vont être licenciés. Donc c'est un recul énorme. Alors moi, quand j'entends parler d'avancées sociales, franchement, ça me révolte en fait.
Mais alors, justement, sur cette question des avancées sociales, comment expliquez-vous que sur la plupart des grandes questions socio-économiques, franchement, une majorité de Français se dégage d'un côté. La réforme des retraites, la majorité des Français était contre. Là, on est dans la séquence Mercosur, elle est contre. La taxe Zucman, il y avait aussi une majorité
Français qui était pour,
qui était claire, etc., etc. Et que cette majorité de Français, qui est claire d'un point de vue socio-économique, n'arrive pas au pouvoir depuis, je ne sais même pas vous dire quand.
Non, mais parce qu'on a aujourd'hui à la fois une aspiration à plus d'égalité, à justement prendre l'argent là où il existe, de la part du monde du travail. Mais les partis politiques qui prétendent représenter les intérêts du peuple, entre guillemets, ne veulent pas s'affronter avec la bourgeoisie et avec le grand patronat. Ils ne veulent pas véritablement le combattre. Mais moi, j'entends même...
Mais alors, comment on fait pour le combattre ?
Vous savez, mais moi, je pense que ça passera exactement comme en Iran. Ça passera par une révolte du monde du travail, une révolte organisée, consciente
qu'on
justement
quand même un peu moins sanglante.
C'est pas... Eh bien, mais vous aurez remarqué
en Iran, on parle d'un régime qui n'est pas une démocratie.
C'est le régime qui réprime. Est-ce que le régime en France serait pas capable? Est-ce que un gouvernement même prétendument démocratique serait pas capable de réprimer autant? Bah, moi, je n'en sais rien en fait. Je n'en sais rien. On a vu quand même ce qui s'est passé au moment des Gilets jaunes. Ça ne les a pas dérangés, des borniers et un certain nombre
de manifestants. Ça n'a rien à voir avec ce qui se passe.
De manifestants.
Je suis d'accord. C'est à déplorer, évidemment.
Je suis d'accord. Mais on peut quand même se dire que s'ils sentaient vraiment leur pouvoir remis en cause, en effet, ils seraient eux aussi sans pitié. Donc, moi, je pense que les leçons, il faut vraiment les tirer pour tout le monde. Mais oui, la révolte, moi, je pense à une révolte parce que je vois que même même LFI, même la France insoumise, qui explique vouloir une transformation profonde, être très radicaux, etc., etc. Quand ils expliquent qu'ils veulent taxer davantage les riches, ils veulent les en convaincre. Ils leur expliquent que finalement c'est une politique qui serait aussi dans leur intérêt, qu'ils auraient intérêt à ce qu'il y ait une politique de relance, que on fasse y compris un minimum de planification, etc. Donc ils cherchent à convaincre.
Les Français, hein, plus que les riches.
À convaincre, y compris le patronat. Et c'est-à-dire que moi, je ne crois absolument pas à cette politique-là. Je pense qu'en effet, c'est ce qu'on disait tout à l'heure de Trump. Hein, aujourd'hui, le capital, il a une seule loi, finalement, c'est de faire du fric, d'accumuler en faisant tout et n'importe quoi. Voilà. Et c'est sans limite. Sans limite. On va exploiter les hommes, on va exploiter la nature jusqu'à les détruire. Et ça, c'est une règle du capitalisme. Ce n'est pas une spécialité de Trump ou ce n'est pas une spécialité américaine.
Alors, cette guerre contre le capitalisme que vous menez depuis des années, vous allez encore la mener en 2027 parce que vous êtes officiellement candidate à l'élection présidentielle. Cette révolte dont vous nous parlez, ça sera la ligne directrice de votre campagne ?
Oui, la ligne directrice, ça sera de dire aux travailleuses et aux travailleurs qu'il faut absolument qu'ils se battent pour leurs intérêts.
En descendant dans la rue, en renversant le pouvoir.
Et que ça sera une question de rapport de force. Oui, que ça sera une question de rapport de force. Ça sera exactement comme tous les combats passés qui ont permis de réelles avancées pour le monde du travail. Parce que ce soit les congés payés, que ce soit les augmentations de salaire, que ce soit les droits dans les entreprises, les travailleurs, ils les ont arrachés au travers de leur lutte, au travers des rapports de force. Et ça n'a jamais été, en réalité, au travers des élections. Donc moi, je pense qu'il faut que les travailleurs...
36, c'est la victoire du Front populaire, non, avec le PC, enfin,
vous savez,
les ASFIO, et Daladier, oui. C'est quand même...
Mais s'il n'y avait eu que l'élection de 1936, on n'aurait jamais eu les congés payés pour simple et bonne raison qu'ils n'étaient même pas dans le programme du Front.
Bien sûr, mais il y a eu des grèves,
Et c'est parce qu'il y a eu les grèves, parce qu'il y a eu non seulement les grèves, mais parce qu'il y a eu les occupations d'usines. C'est-à-dire parce que les travailleurs ont montré leur force, ont montré que finalement, les usines, bah, c'était... c'était chez eux, finalement. C'est eux qui les font tourner, c'est eux qui les font fonctionner, c'est eux qui les ont bâtis, c'est eux qui savent créer les richesses, et que finalement, ils étaient mille fois plus légitimes à être chez eux et à dire « c'est nous qui allons diriger ces entreprises » que finalement les patrons et les actionnaires qui mettent jamais un pied dans les entreprises où ils ont où ils possèdent des capitaux. Donc c'est le rapport de force. Donc oui, je dirais ça. Je dirais que c'est une question de rapport de force, et je dirais surtout que le problème, c'est en effet d'aller jusqu'à renverser ce système capitaliste, parce que là, on le mesure. Dans j'ai écouté votre débat, on mesure que le capitalisme, c'est les crises et c'est les guerres. Parce que toutes ces tensions, vous
savez... Donc on sort de l'Union européenne.
La guerre économique dont vous avez parlé, dont vous dites il faut la mener, il faut être plus dur, il faut être plus...
Il faut se défendre face à ceux qui nous attaquent.
Etc. Elle mène où ? Elle mène à la guerre tout court, en fait. Elle mène
là,
à la guerre...
Elle est plutôt menée
elle
à l'Union européenne.
À la guerre tout court. Et cette guerre-là, c'est une guerre pour les profits des capitalistes. Ce qui est en jeu aujourd'hui dans ces histoires
là,
de guerre et de protectionnisme.
C'est surtout pour 55 000 Groenlandais qui n'ont pas forcément envie qu'on leur occupe leur pays illégalement.
Ce qui est en jeu, c'est qui va exploiter les terres rares de Groenland, qui va exploiter le pétrole du Venezuela, qui va aller cultiver les terres fertiles d'Ukraine.
Donc on en revient à l'impérialisme, c'est-à-dire des impérialistes qui veulent prendre possession de territoires qui ne sont pas les leurs au mépris des peuples.
Ils sont tous en rivalité pour cela, y compris nos propres capitalistes et nos propres dirigeants. Donc moi je dis aux travailleurs, et c'est ce que je dirais lors de la campagne, il ne faut surtout pas leur faire confiance.
Mais
Faire confiance, ils ne défendent pas les intérêts du monde du travail.
Vous venez de nous expliquer que les élections étaient moins importantes, par exemple en 1936, que les grèves. Mais
bien
pourquoi
sûr.
Vous vous présentez dans ce cas-là ?
Parce que
là, vous empêchez l'union de la gauche, par exemple, cette multiplication des candidatures. Si ce n'est pas important, les élections... Pourquoi vous ne vous concentrez pas sur les grèves qui suivront une éventuelle victoire de la gauche aux prochaines élections ?
Mais d'abord, je vous rassure, je ne fais pas de l'ombre à la gauche. Moi, je concours dans une catégorie tout autre, la catégorie communiste, révolutionnaire, internationaliste. Et dans cette catégorie-là, je peux vous dire qu'on ne sera pas, pas très nombreux. Et,
Si vous convainquez les Français.
Donc, pourquoi je serai présente dans cette... précisément pour dire cela. Pour dire que le capitalisme à visage humain, le capitalisme policé, le capitalisme doux...
Il n'existe pas.
Et les travailleurs qui sont exploités tous les jours dans les entreprises, qui sont confrontés à des petits Trump, en fait.
Tous les patrons de France ne sont pas des petits Trump.
Non.
Merci, notamment dans les PME, dans les TPE.
Oui, les PME, les TPE.
Le boulanger qui a 3 salariés, vous ne le mettez pas dans le même sac que le patron de Total.
Exactement.
Bon.
Vous me l'avez enlevé de la bouche. Je ne le mets pas dans le même sac.
De le rappeler.
Par contre, toutes ces grandes entreprises, il y a des Trump à tous les niveaux. Vous savez que dans un certain nombre d'entreprises, y compris pour prendre sa pause, y compris pour aller aux toilettes, y compris il faut quasiment demander l'autorisation, vous êtes chronométré, etc. Les gens, ils sont licenciés après avoir bossé 20 ans, après avoir laissé leur santé. Ça aussi, c'est du cynisme et ça aussi, c'est révoltant.
Nathalie Arthaud, on voulait vous montrer quelques images. On vous a très souvent vu défiler aux côtés d'Arlette Laguiller. Manifestation de soutien à la Palestine, ça c'était en 2014. Manifestation du 1er mai en 2015. Manifestation contre la loi travail en 2016. Il y en a encore plein d'autres, des images comme celle-là. Elle a été, Arlette Laguiller, une vraie source d'inspiration pour vous. On vous a souvent comparé. Est-ce que c'est flatteur ou est-ce que parfois c'est un peu lourd à porter ?
Non, bien sûr que c'est flatteur. C'est le même combat. Le même combat que nous continuons. D'ailleurs, Arlette est toujours là, et toujours,
toujours
une dirigeante de lutte ouvrière, une militante. Aujourd'hui, d'ailleurs, elle milite à fond parce que on parlait de l'élection présidentielle, mais lutte ouvrière va aussi être présente au municipal. On sera présente dans quasiment toutes les grandes villes du pays, avec peut-être 250 listes. Une présence dans 250 villes à l'échelle du pays pour lever ce drapeau-là. Voilà, ce drapeau de la révolte et de la conscience que là, si on laisse finalement les choses entre les mains de ceux qui dirigent actuellement, on court vers de plus en plus de catastrophes et vers les guerres.
Merci beaucoup Nathalie Arthaud d'être venue